La science CQFD, Natacha Triou.
Un nouveau musée des mathématiques à Paris est inauguré ce soir et ouvre ses portes samedi au public, la maison Poincaré. Pourquoi ce musée est-il un projet si important ? L'idée a mûri pendant 10 ans, 900 mètres carrés consacrés à toute la diversité des mathématiques et pour montrer la pluralité des liens qu'elles tissent avec d'autres sciences, mais aussi avec la société, la culture et à notre part de sensible. Ce musée, du nom de ce mathématicien précurseur, fait aussi la part belle aux mathématiciennes. Pour nous faire découvrir les maths autrement, la maison Poincaré a trouvé la bonne formule. Maison Poincaré, un musée et pi. C'est tout. Sylvie Benzoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicienne et directrice de l'Institut Henri Poincaré depuis 2018 et professeure à l'Université Lyon 1. Mathilde Herblot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Institut de mathématiques de Jussieu, l'Université Paris-Cité, dans l'équipe de théorie des nombres, et vous êtes l'une des 14 ambassadrices porte-parole de la maison Poincaré. Et Élodie Christophe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la maison Poincaré. Merci à vous trois d'avoir accepté d'être nos guides pour cette visite en avant-première. Alors comment on pense un musée des maths? Comment rendre les mathématiques plus accessibles? Et comment rendre compte de leur grande diversité? On est ensemble pendant une heure pour répondre à toutes ces questions. Alors là, on est sur le campus Pierre et Marie Curie, c'est un édifice historique, le bâtiment Perrin. Là, on a eu 10 ans de travaux lourds. À la base, c'était un laboratoire qui a été réhabilité pour devenir ce musée. Sylvie Benzoni, dans une interview, vous avez dit que ce musée ouvrait dans un contexte où les enjeux sociétaux sur les maths sont plus présents que jamais. Ça veut dire quoi, ça ?
Alors, je pensais à ce qu'on a dit dans les médias et suite à des réactions aux réformes du lycée qui ont eu lieu dans la presse, en particulier des tribunes, et vraiment le côté qu'est-ce que ça change ces réformes du lycée par rapport à l'accès aux études scientifiques, en particulier pour les filles qui choisissent plutôt moins qu'avant les maths. Et voilà, donc c'était ça, plus le fait que notre société quand même est à forte composante technologique et numérique, où il y a beaucoup besoin de mathématiques.
Élodie Christophe, pour vous aussi, c'est un enjeu important, l'ouverture de ce musée, un enjeu sociétal important?
Un enjeu, oui, pour les filles, pour les garçons, pour les jeunes. Donc on va vraiment les accueillir à partir de la quatrième, vers 12-13 ans, pour essayer de leur montrer la grande diversité des mathématiques et leur interaction avec toutes les autres disciplines scientifiques.
Mathilde Herblot, sur cet important, justement, sur l'enjeu d'un musée des mathématiques aujourd'hui, en 2023.
Je pense que ça manquait pour faire découvrir tout ce qu'il y a de varié, multiple dans les mathématiques, dans le fait de faire des mathématiques et surprendre aussi le public. On espère qu'il va découvrir de choses très nouvelles.
Sylvie Benzoni, l'autre originalité ici, c'est qu'on est ici à la fois dans un endroit où la science se fait et où la science se montre.
Exactement, c'est un campus, vous avez dit, c'est le campus Curie, où il y a Marie Curie qui avait travaillé, et puis un ensemble d'instituts qui datent du début du XXe siècle. Donc vraiment un domaine patrimonial, multidisciplinaire aussi. Il y a les maths, la physique, la chimie juste à côté, la biologie, l'océanographie un petit peu plus loin, les études hispaniques. C'est vraiment un campus multidisciplinaire.
Oui, puis ça, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on va voir comment justement les sciences et les maths sont des choses qui sont reliées, que pas de science sans maths.
Exactement. L'idée, c'est une des idées, une des ambitions, c'est vraiment de montrer que les maths sont reliées à beaucoup de domaines scientifiques et puis aussi au quotidien des gens, en fait.
Élodie Christophe, il existe déjà quand même des espaces où les mathématiques sont exposées, la maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon, le projet de la Grange des maths près de Grenoble, ou encore près de Toulouse, Pharmascience. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce musée ?
Voilà, on est situé vraiment au cœur d'un centre international de recherche. Donc là, on est au milieu des chercheurs. On va essayer de les attraper, d'ailleurs, de temps en temps, pour qu'ils puissent venir aussi participer, donner des conférences, être aussi vraiment au plus près et montrer aussi qu'est-ce que la recherche en mathématiques. Cet écart-là entre les chercheurs et le public, évidemment, on peut le faire avec des ados. C'est pour ça qu'on commence à partir de 12-13 ans, parce que la recherche contemporaine en mathématiques, c'est pas facile à expliquer.
Oui, parce que c'est ça, il y a les mathématiques, c'est plein de choses différentes. Il y a le... bon, on en fait tous à l'école, mais les mathématiques des chercheurs, c'est un peu différent. Ça, vous voulez montrer en public, faire comprendre ce que c'est de rechercher, de découvrir en mathématiques.
Oui, effectivement, les mathématiques qu'on apprend à l'école et celles que font les chercheuses et les chercheurs actuellement sont pas exactement les mêmes, mais il y a une part qui est commune dans l'activité mathématique. Chacun, chacune à son niveau, on peut faire des mathématiques et on peut apprendre de nouvelles choses, comprendre quelque chose qu'on avait encore jamais compris avant, avoir ce plaisir du moment où enfin on a compris, découvrir quelque chose de nouveau pour nous, même si c'est pas forcément nouveau pour les autres. Et ce plaisir-là peut être le même pour... un enfant, pour un mathématicien ou une mathématicienne professionnelle.
Vous nous disiez avant cet enregistrement qu'on peut faire des maths en amateur comme on peut faire du sport.
Oui, je crois. Comme on peut faire du sport ou de la musique. On peut en faire pour le plaisir sans être professionnel, sans être un expert ou une experte.
Là, c'est peut-être aussi le moment de détricoter une de ces idées reçues qu'on entend partout. Voilà, les maths, c'est pour un certain type de personnes. Ça, c'est aussi un stéréotype, un cliché que vous vouliez détricoter.
Oui, clairement, c'est montrer que c'est accessible déjà. On essaie de l'ouvrir à tous. On a aussi travaillé tout ce musée pour permettre une accessibilité au plus grand nombre des publics qui sont parfois malvoyants, malentendants. Donc on a vraiment essayé d'ouvrir à tous. Et après, c'est montrer par différents formats, peut-être des approches... qui sont atypiques, originales. On ne nous attend pas forcément sur une approche par les arts, par des expérimentations pratiques. On va pouvoir mettre les mains aussi dans les maths, clairement.
Mettre les mains dans les maths. Avant de commencer à franchir ses portes, peut-être revenir aussi, Sylvie Benzoni, hein, sur la genèse du projet. Vous pilotez ce projet de la Maison Poincaré depuis le début, depuis 10 ans. Quel a été pour vous le plus gros défi ?
Alors, je ne le pilote pas tout à fait depuis 10 ans, hein, puisqu'il avait été lancé il y a une dizaine d'années, en effet, par Cédric Villani, qui était à l'époque le directeur de l'Institut, Henri Poincaré. Et moi, donc, j'ai repris depuis 2018. Donc, depuis 2018, le gros du travail, ça a été vraiment de concevoir cette exposition permanente de la Maison Poincaré, qui ne s'appelait pas encore comme ça au début. On a choisi le nom plus tard. Et voilà, d'imaginer tous ces espaces, comment les aménager pour ouvrir plein de portes sur les mathématiques contemporaines.
Alors comment on ouvre des portes pour des publics qui ne sont pas forcément branchés maths ?
On a essayé plein de choses et elles sont mises en œuvre ici, des expériences sensorielles. Alors il y a l'expérience Holomat qui est assez particulière en réalité mixte et il y a sinon plein d'autres expériences interactives ou par le toucher. Et vraiment c'est une expérience physique de venir dans ce musée, la Maison Poincaré.
Comment concrètement ça se pense, ça se réfléchit, une médiation pour un musée des mathématiques ?
Donc moi quand j'ai pris le projet, il y avait des scénographes qui avaient été choisis avec les architectes et les contenus étaient vraiment à construire. Donc on a, à partir du comité de culture mathématique auquel appartient Mathilde, on a réuni une grande assemblée dans un amphi à Sorbonne Université, élargit ce comité et pour faire des groupes de travail par espace. Cela a été bien identifié. Et ensuite, effectivement, les groupes de travail ont travaillé avec une muséographe qui est arrivée avec nous dès juin 2018. Et donc, elle a vraiment coordonné tout le travail des groupes de travail. J'étais aussi dans la boucle, forcément, impliquée spécifiquement dans certains, un peu moins dans d'autres. Et on a vraiment réfléchi. Alors c'est vrai qu'il y a des espaces qui ont... Bon, tout le monde était très enthousiaste, hein. Les gens, on ne les a pas forcés à venir participer à ce projet. Donc il et elle étaient enthousiastes. Des groupes ont très bien fonctionné, ont fait émerger tout de suite des contenus, des idées. D'autres ont fait émerger des idées qui finalement ont été mis un petit peu de côté pour d'autres. Voilà, ça a été vraiment très très collectif et une aventure passionnante.
Louis Christophe.
Alors c'est un travail évidemment qui fait appel à tous les professionnels de la recherche, mais il y a eu aussi des professionnels de la culture scientifique qui ont aussi contribué pour arriver à faire en sorte que les formats puissent s'adresser vraiment au public. Donc avec la muséoscience, donc la muséographe, mais aussi le scénographe, donc Rémi Dumas, vraiment toute cette mise en musique de ces manips interactives, des panneaux d'exposition, de tout ce parcours muséographique, c'est fait de façon très concertée et coordonnée.
J'ai assez fait durer le suspense, on va pouvoir découvrir tout ça et mettre les mains dans les maths. C'est parti. Alors. vient de rentrer dans une très belle salle. Est-ce que je peux vous demander, Sylvie Benzoni, d'être nos yeux? Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, c'est une salle, effectivement, qui a un passé très, très riche. C'était la salle de thé du temps de Jean Perrin, le fondateur des lieux, qui était physicien, prix Nobel en 1926. Et elle est avec ses boiseries d'origine, un parquet qui craque, un tableau aussi. Et derrière ce tableau, il y a un bar, en fait, pour préparer du thé. On a, avec les scénographes, ont imaginé un aménagement où il y a des tables qui vont permettre à la fois... Il y a des dispositifs interactifs sur ces tables. Et il y a aussi de quoi prendre le thé à l'occasion. Et on a des vitrines, des magnifiques vitrines.
Oui, là, je vois une vitrine voilà. Avec de nombreux objets.
Donc ça, c'est des objets qui appartiennent à l'Institut depuis toujours sa création, qui était une collection de la Sorbonne à la fin du 19e siècle, qui avait une vocation pédagogique pour les élèves, les étudiants qui apprenaient les mathématiques et en particulier la géométrie descriptive. Donc ils ont un passé assez riche qui, en fait, s'est trouvé enrichi par des artistes, en l'occurrence Man Ray, qui est venu dans les années 30, qui les a découverts et qui les a photographiés.
Peintre et photographe surréaliste, en effet.
Exactement. Donc il avait trouvé ces objets comme vraiment un objet très intéressant du point de vue du surréalisme. Alors il y a des objets historiques, mais il y a aussi des objets plus récents. Par exemple, là-haut, on a une cyclide qui date de 2017, faite par un collègue. Donc c'est vraiment mettre en valeur le patrimoine de l'Institut. Et c'était un petit peu l'un des prétextes au départ du musée. C'était de pouvoir exposer un certain nombre de ces objets. On en a 600, tout plus de 600.
Ouais, on a une impression de cabinet de curiosité là, avec ces sculptures mathématiques. Élodie Christophe, ça dit aussi que la culture mathématique, c'est de la culture tout court.
Tout à fait. Et dans cette salle de thé, on aura envie de la faire revivre aussi. Donc les chercheurs et les chercheuses, je disais qu'on allait les attraper. On va les faire venir ici aussi pour leur faire vivre avec les publics aussi des moments un peu de convivialité à l'heure du thé. Donc des moments de rencontre, au goûter, essayer de créer ces moments aussi où on peut voir un mathématicien, une mathématicienne écrire au tableau et raconter un petit peu ce qu'il fait ou les sujets sur lesquels il travaille au public de passage qui seront présent.
Ouais, je vois sur ma gauche qu'il y a une sorte de dispositif que je vais... Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire écouter. On peut écouter avec le micro ?
Oui.
Ah, super. Je lis les chuchoteurs de formules.
Alors, du coup, vous avez une mosaïque. On a choisi 36 formules auxquelles vous pouvez accéder par un symbole mathématique sur cette mosaïque. Donc, vous pouvez choisir le symbole que vous voulez. Ça va vous lire une formule.
Eh bien, on connaît tous pi.
Vous allez être surprise.
1 sur pi est égal à 2 racine de 2 sur 9801 multiplié par la somme pour k allant de 0 à l'infini de factoriel 4k multiplié par la somme de 1103 et de 26390 fois k, divisé par factoriel k à la puissance 4, multiplié par 396 à la puissance 4k. Cette formule, proposée sans démonstration par le mathématicien indien Ramanujan, est l'une des plus efficaces pour calculer les décimales de pi.
Là, l'idée, c'est pas forcément de comprendre de manière pédagogique ces formules. Pour les expliquer, il faudrait beaucoup plus de temps. Là, c'est vraiment l'idée de les écouter pour arriver à entendre aussi la façon de prononcer ces différents symboles et de faire découvrir aussi toutes ces différentes façons d'écrire les mathématiques.
Alors, toujours dans cette salle partagée, là, il y a un panneau en face de nous, collier mathématique.
Alors... Sur ce panneau, on a voulu ouvrir une porte, là encore, à travers des objets qu'on peut toucher mais pas manipuler. En revanche, l'équipe de médiation pourra en fournir des objets à manipuler, mais des objets qui parlent. Un collier, tout le monde a déjà vu un collier de perles. Et il se trouve que c'est comme si c'était des colliers qu'on avait ouverts par leur fermoir, noués, enfin, comme vous faites un peu vos nœuds de lacets, par exemple, et refermés. Et en fait, il y a une théorie mathématique de ces nœuds qui les classifie. Donc on a voulu montrer une série d'exemples qui n'est pas du tout exhaustive, puisqu'en fait, il y a une infinité de nœuds mathématiques différents. Et c'est aussi un clin d'œil, le fait de les avoir réalisés comme des colliers de perles. C'est un clin d'œil aux œuvres de Autoniel, qui en réalise de magnifiques perles de Murano très très grandes. Donc ça ouvre aussi vers l'art. Et ça ouvre vers... Alors, il y a toute une histoire qui vient d'une erreur scientifique de Kelvin, qui avait imaginé au XIXe siècle que l'éther... On était censé baigner dans un truc appelé éther, et que cet éther était constitué de nœuds d'éther. Enfin, voilà, là, il imaginait les particules. Et bon, c'était une erreur, mais ça a intéressé les mathématiciens derrière qui ont développé toute cette théorie des nœuds. Voilà. Et curieusement, en fait, cette théorie des nœuds qui est mathématique, elle est revenue en physique dans les dernières décennies, années, et aussi en biologie. L'ADN, par exemple, fait des nœuds.
Je vois le nœud de Conway qui est assez célèbre lui aussi.
Alors, le nœud de Conway, on l'a mis exprès effectivement parce qu'il il nous réserve des surprises. Puisque sur ce tableau, on a voulu montrer quelque chose qui s'appelle un invariant, c'est-à-dire quelque chose qui permet de différencier deux nœuds. Et curieusement, si vous regardez ce nœud de Conway, son invariant, c'est 1. Et c'est exactement comme si c'était un collier non noué, votre collier autour du cou, sans faire de nœud. Donc c'est très surprenant, ça veut dire que c'est un invariant qui ne permet pas de distinguer ces deux nœuds qui pourtant n'ont pas l'air du tout les mêmes. Et puis il y avait plein de questions aussi sur ce nœud, dont une qui a été résolue récemment par une jeune mathématicienne, l'article est paru en 2020, et là on l'évoque un petit peu dans le dispositif d'à côté, sur la carte des savoirs. Voilà, donc ce nœud de Conway, effectivement, on raconte beaucoup de choses aussi.
Élodie Christophe ?
Nous, on va essayer aussi, à la Maison Poincaré, de proposer des ateliers. Parce que mettre les mains dans les maths, c'est aussi refaire ces nœuds-là. Parce qu'en les faisant, on comprend mieux ce qui passe au-dessus, ce qui passe en dessous. Pourquoi on arrive à les dénouer ou pas à les dénouer. Donc c'est aussi des ateliers qu'on proposera ici, en plus des visites guidées, des conférences, de toutes les autres activités du musée.
Je vous propose de poursuivre cette visite. On passe par la salle d'à côté. Très bien. On est arrivé dans un bel amphithéâtre, tout boisé lui aussi, et nous sommes dans l'espace inventé.
Voilà, donc c'est le thème qui a émergé pour cet espace, pour vraiment, si on va un petit peu plus haut après, on verra, on parle de Poincaré et de ce que c'est que inventer, l'intuition, la logique en maths. Voilà, donc il y a différents dispositifs où on évoque les manières d'inventer, parce qu'elles sont multiples, il y a autant de façons de faire que de mathématiciens ou de mathématiciennes. Quelques thèmes qui ont été choisis, le côté aussi collectif des mathématiques est mis en évidence. Et là, ils tournent pas actuellement, mais on a des films documentaires courts sur quatre mathématiciennes et quatre mathématiciens contemporains. Donc les équipes de production audiovisuelle sont allées les rencontrer à l'endroit qu'elles souhaitaient, et ce n'était pas forcément leur bureau. C'est dans des endroits un peu surprenants.
Oui, ce qu'on voit aussi avec ces portraits et d'hommes et de femmes autour de nous, c'est que ici, dans ce musée, vous vous attaquez à la sous-représentation des femmes en mathématiques.
Alors oui, y a déjà un chiffre un peu alarmant quand même. Il y a 20% à peu près de mathématiciennes en France. Donc on voit bien qu'on est très loin de la parité. C'est le cas aussi, par exemple, dans les sciences du numérique. Donc on voit qu'il y a un fort travail à faire pour essayer de montrer que, qu'on soit un jeune homme, une jeune femme, on peut très bien se diriger vers ces métiers-là et que ça n'a rien à voir avec notre genre. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché à la Maison Poincaré. Il y a vraiment un équilibre paritaire dans la représentation de tous les contenus qui sont proposés.
Mathilde Herbleau, sur cette sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques et notamment en maths.
Oui, elle est malheureusement réelle. Et donc il y a eu le choix de pas la représenter ici, mais de montrer une parité de mathématiciennes et mathématiciens aussi, parce que non seulement il y a peu de femmes en mathématiques, mais en plus on les connaît moins. Et quand on imagine quelqu'un qui fait des maths, c'est un homme. Et quand on parle de mathématiciens, on ne cite souvent que des hommes, on fait des portraits d'hommes. Ce sont eux qu'on voit généralement dans la presse, et moins que les femmes. Donc ici, on a fait attention à montrer aussi les mathématiciennes.
On peut continuer de déambuler dans ce beau musée.
Musique.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
On arrive dans un bel et grand espace lumineux. Là, je vois en face de moi l'espace modélisé. Alors, qu'est-ce que c'est que cet espace modélisé ?
Alors, dans cet espace qui est assez spacieux, justement, avec plusieurs sous-thèmes, disons, on essaye de mettre le focus sur un certain nombre d'applications des mathématiques à d'autres domaines scientifiques. Et c'était vraiment la partie appliquée qui fait le lien avec l'espace qui est juste en face, qui est une sorte d'atrium avec des marches sur lesquelles on peut se poser et qui est consacré au thème de connecter les mathématiques au sein des mathématiques et avec le reste, la vie quotidienne en particulier.
Élodie, Christophe, donc, quelques applications mathématiques dans des domaines très variés, comme quoi par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut voir ?
Là, on va avoir les mathématiques avec les sciences du numérique, avec la physique, la biologie. On va montrer vraiment les interactions entre toutes ces différentes sciences au sein de l'espace modélisé, puisque c'est vraiment aussi un outil, les mathématiques, pour pouvoir essayer de comprendre certains phénomènes. On peut en choisir un, peut-être,
pour essayer de... On va voir justement de ces dispositifs.
On va voir un plus près.
Nous montrer.
Parfois, on avait des petits traits d'humour, comme ça, on l'a appelé « Et je remets le son », ce qui vous rappelle peut-être le titre d'une chanson. Et c'est un dispositif qui permet d'expérimenter la façon dont on peut traiter le son du point de vue mathématique. Donc, ça fait appel à une méthode qui est relativement ancienne, mais qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui, qui s'appelle l'analyse de Fourier.
Ah, mais qu'est-ce que c'est justement la transformation de Fourier ?
Ah, et pour expliquer ça en quelques mots à la radio, ça ne va pas être forcément facile.
En tout cas, mais, comment
mais
par
on
ce
peut,
dispositif ?
On peut voir, en fait, je pense que le dispositif est bien adapté pour comprendre
adapté
un petit peu ce
pour
que
la
c'est.
Radio. Super. Alors là, on a un écran, je remets le son, et on a le choix entre 4 extraits sonores différents, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Donc, note à la trompette, extrait musical, chant du merle, extrait vocal. Allez.
D'après un proverbe Shadok, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Alors vous aussi, essayez les mathématiques. C'est pas sorcier.
Ah oui, donc on a un son qui a été traité de façon téléphonique.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'on voit
Donc on voit s'afficher des ondes correspondant à ce son et des fréquences. Donc en bas, vous avez des basses fréquences, en haut, plus hautes, et le temps défile de gauche à droite. Et quand on a appliqué ce filtre et on a entendu cette transformation, on a enlevé les hautes fréquences et les basses fréquences. On a réduit notre bande de fréquences. C'est un filtre passe-bande. Et on a entendu un effet, ça ressemble à quelque chose qui serait au téléphone, un son au téléphone. Et on peut l'écouter transformer différemment, si vous voulez.
En effet, celui-ci...
D'après un proverbe Shadok, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Alors vous aussi, essayez les mathématiques. C'est pas sorcier.
Ce dispositif-là, il met donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il met en lumière la transformation de Fourier.
Donc ça part d'un signal sonore, effectivement, qui est enregistré ici et qui évolue au cours du temps. Et la transformation en question découpe en petits extraits sonores. Et chaque extrait sonore, on extrait ses fréquences, un peu comme sur un instrument de musique. Quand vous jouez un vrai la, vous avez une certaine fréquence. Et si vous jouez une autre note, vous avez une autre fréquence. Et puis en général, vous avez en fait une gamme de fréquences qui donne le timbre de l'instrument. La voix humaine aussi a plusieurs fréquences. Et on peut la visualiser grâce à la transformation de Fourier sur un spectrogramme.
Alors, autre application possible, il y a ce jeu interactif là-bas, sur les foules, rentrez vos moutons, c'est ça ? vous nous montrez tout ça, Élodie, Christophe ?
Allez, donc là, on est plus sur la modélisation des mouvements des foules, et on a voulu proposer aux visiteurs de pouvoir jouer à deux, pour essayer de rentrer ces moutons dans l'enclos le plus rapidement possible. Donc, on peut se mettre face à face.
Très bien.
Donc, c'est une table tactile. Qui permet de choisir si on veut des moutons qui sont plutôt calmes ou effrayés. On a effectivement tous les contenus qui sont aussi traduits au passage en anglais pour accueillir aussi des anglophones. Donc calme ou effrayé, je sais pas, comme vous voulez.
Calme.
Allez, on va les mettre plutôt calmes. Et donc une fois qu'on a lancé le jeu, on a des chiens de berger qui vont être là pour Donc vous avez les roses, moi j'ai les verts.
Okay, petite figurine.
Et l'idée, c'est qu'on puisse les rentrer le plus vite possible dans chacun de nos enclos respectifs. Donc moi j'ai les verts, il faut que je les rentre là-bas.
Ok, et moi j'ai les roses.
Voilà. Et donc sur la table, en posant le chien, on voit qu'effectivement, ça va bouger les moutons dans une direction. Et là, il faut placer les chiens suffisamment intelligemment pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction. Et suivant qu'ils soient effrayés ou calmes, justement, ils ne vont pas avoir le même comportement et ils vont rentrer plus ou moins vite dans leurs enclos. Donc là, il y a tout un travail de programmation qui a été réalisé pour que ce jeu puisse être proposé par des chercheurs qui ont modélisé justement ces mouvements de foule et qui ont pu permettre, suivant que les moutons soient effrayés ou calmes, d'avoir des comportements différents avec des obstacles. Donc là, ce sont les chiens qui représentent ces obstacles et qui permettent de faire rentrer les moutons plus ou moins vite dans leur enclos. Là, il y a les vôtres qui repartent.
Sylvie Benzoni.
Alors oui, donc effectivement, c'est notamment Sylvain Faure qui a programmé le code qui est derrière ce jeu. Et on a un autre sur l'évacuation des foules. C'est vraiment quelqu'un qui travaille avec quelques collègues sur cette thématique et qui a élaboré vraiment une modélisation mathématique des comportements de foule. Donc il y a un aspect finalement presque de sociologie. On voit si les moutons sont effrayés ou pas. Dans l'autre jeu, les gens sont plus ou moins polis pour évacuer une salle. Donc il y a cet aspect-là qui doit être pris en compte dans la modélisation.
Mais petit tableau, sur pareil, sur les mathématiques que contiennent et que raconte ce dispositif.
Alors, peut-être que je vais revenir sur ce que c'est modéliser. Donc, modéliser, on part d'une situation réelle, et puis on va essayer de la voir mathématiquement. Donc, il va falloir la simplifier et réussir à la traduire en des termes mathématiques. Donc, par exemple, la mettre en équation. Ce sera pas toute la situation réelle, mais essayer d'en avoir une partie et essayer que ça décrive le mieux possible la situation réelle. Donc ici, comment se déplace une foule par rapport à des obstacles. Vous pouvez avoir un exemple, par exemple à Châtelet, dans la station de métro, on est dirigé par des panneaux quand on veut aller prendre telle ou telle ligne et on ne nous fait pas prendre le chemin le plus direct. Parfois, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, il faut tourner à gauche, alors qu'on vous avait pas du tout dit de tourner à gauche, mais c'est pour permettre que des foules puissent se déplacer avec le moins de problèmes possibles, qu'on ne se rende pas dans des endroits où ça va être bouché s'il y a beaucoup de monde.
Alors, autre exemple d'application possible des mathématiques avec, là aussi derrière nous, un dispositif où on voit des tiges, des boules colorées. Ça aussi, je veux bien que vous nous racontiez en quoi ça consiste, Sylvie Benzoni.
Alors là, l'idée, c'est vraiment avec un dispositif à observer. On peut tourner autour, il est assez grand, il impose un petit peu sa présence dans l'espace. Et c'est vraiment une façon d'illustrer comment les grandes masses de données sont traitées. Donc ici, c'est une situation très simple, fictive, avec un scénario qu'on raconte sur le cartel, en trois dimensions, dans notre espace à trois dimensions. Donc, il y a des boules rouges, il y a des boules bleues, et puis il y a une boule mystère blanche. Alors, chacune des boules rouges et bleues est censée représenter finalement trois données qui sont la position dans l'espace de la boule correspondant à un individu. Et les boules rouges, pareil. Et la question est de trouver un point de vue depuis lequel on peut bien séparer ces données. Et c'est vraiment un des principes de base, en fait, de tout ce qui est intelligence artificielle. Ça remonte à, on va dire, un demi-siècle, l'idée de base. Et là, on peut l'observer. Comment est-ce qu'on arrive à séparer des données? Et la question, c'est de déterminer de quelle couleur est la boule blanche.
Élodie Christophe.
Alors, autour de ce sujet sur l'intelligence artificielle, on a une exposition temporaire qui est la première exposition temporaire du musée, donc qui sera au sous-sol du musée sur 200 mètres carrés et qui va aller beaucoup plus loin sur cette thématique. Donc, on va pouvoir comprendre son histoire, les succès, les échecs, mais aussi ses applications, les travers dans lesquels elle peut nous conduire. Donc, les différents biais auxquels il faut faire attention pour le recrutement, par exemple, dans les ressources humaines. On a aussi des interactions, des manips interactives. Donc, voilà. Aussi, une belle exposition, une première exposition temporaire pour vraiment aller plus loin et approfondir le sujet.
Sans maths, impossible de relever les défis concernant la santé, le climat, l'énergie, les transports, tout ça, ça nécessite de modéliser, d'optimiser, d'analyser. On passe dans la salle, l'espace connecté, dans quelques instants. Sweet. De la maison Poincaré avec vous, Sylvie Bazzoni, Mathilde Herblot et Elodie Christophe. Et là, on arrive donc dans l'espace connecté. Et on a en face de nous une sorte de carte de métro, on dirait. Qu'est-ce que ce sont tous ces liens, toutes ces lignes?
Alors, ça a été une façon, on a choisi cette manière de représenter pour donner une idée de la variété et de l'ampleur, en fait, le côté très vaste des mathématiques. Que les élèves apprennent à l'école, ils apprennent plutôt des choses à propos des nombres, des formes. Et on a des quartiers qui portent ces noms dans cette carte, mais on a aussi d'autres quartiers qui portent d'autres noms et des stations dans chacun de ces quartiers qui sont reliées littéralement par des fils élastiques qu'on peut tirer. On peut tirer des fils entre ces différents domaines et sous-domaines parce que effectivement les mathématiques sont très variées et en même temps très interconnectées entre les différentes parties.
Mathilde Herblot, ça montre donc bien, comme vous dites, hein, toute la diversité des domaines, des sous-domaines qui sont reliés les uns aux autres.
Oui, on voit apparaître plein de noms de domaines et de sous-domaines en mathématiques. Je peux vous en lire quelques-uns comme ça au hasard. Il y a écrit topologie différentielle, géométrie tropicale, théorie de la démonstration, théorie des modèles. Et donc on a ces fils élastiques entre certains de ces noms qui indiquent des liens entre ces domaines mathématiques parce que les différents domaines des mathématiques ne sont pas séparés. On peut travailler sur plusieurs domaines à la fois et il y a des liens à faire entre eux. On les voit là. Et bien sûr, il n'y a pas que ça d'ailleurs sur cette carte de métro. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des objets aussi autour.
Il y a des objets qui sont assez curieux. Là, je vois qu'il y a un ballon de foot, en effet.
Des choses qu'on n'attend peut-être pas dans un musée des mathématiques.
Alors pourquoi ce ballon de foot ?
Il fait partie de effectivement 14 objets qu'on a voulu mettre autour de la carte. Et c'est plutôt des objets du quotidien que les gens connaissent dans leur vie. Et particulièrement le ballon de foot, je pense, est connu d'à peu près tout le monde. Mais on fait le pari que la plupart des gens n'ont jamais vraiment fait attention à comment il était fait. Comment est-ce qu'on fabrique un ballon de foot ?
Que vous soyez Messi ou que vous détestiez le foot, vous en avez déjà toutes et tous vu. Voici un ballon de football. De loin, on dirait une sphère parfaitement ronde. De près, c'est une autre histoire, une histoire de géométrie dans l'espace, car le ballon de foot a une forme un peu spéciale. Voici le problème. Vous disposez de tout un tas de morceaux de cuir, ceci par exemple. Ce sont des hexagones, des formes régulières à six côtés. Avec ces morceaux, vous devez couvrir une surface, disons celle-ci. Lorsque la surface est plane, pas de problème. Oui, mais voilà, notre ballon de foot n'est pas une surface plane. Il ressemble, rappelez-vous, un peu à une sphère. Essayons de le recouvrir avec nos morceaux de cuir.
Je vois avec des yeux malicieux. Je vois que vous avez pris justement des hexagones, des pentagones. Et c'est un dispositif qui se joue. Alors comment se fait un ballon de foot ? La mathématique du ballon de foot, c'est ça en fait que vous cherchez à nous faire découvrir.
Voilà, c'est ça. Donc effectivement, là, on a un ballon qui est représenté. Et sinon, on a une sphère à habiller avec des pièces en cuir, comme si on devait construire ce ballon qui est arrivé en kit. Et on a des pièces, donc certaines c'est des pièces blanches avec, je pense que vous arrivez à voir qu'il y a 6 côtés, des hexagones, et des pièces noires qui sont avec 5 côtés, des pentagones. Donc en général, quand il y aura une activité de médiation, la question ça sera, est-ce que vous arriveriez à habiller cette sphère avec juste les hexagones ? Et donc, en général, les gens essayent et ils se disent « Ah, mais non, ça coince un petit peu, ça se chevauche, ça ne va pas du tout, cette histoire. » Et c'est normal, c'est mathématique. En revanche, si on compose notre ballon avec des hexagones et 12 pentagones, ça c'est aussi un résultat mathématique de savoir qu'il y en a 12 des pentagones, et bien là, on arrive à un ballon de foot à peu près raisonnable. Ça, c'est le ballon classique. Et on a aussi... proposer une forme moins classique de ballon que les gens ont peut-être vu, mais ça commence à dater. C'était lors de la Coupe du Monde de football au Brésil en 2014. Donc ça, c'est des formes qui sont totalement identiques, contrairement au ballon standard où il y a des hexagones et des pentagones. C'est la même forme en 6 exemplaires. Et elle est un peu tortueuse quand même, a priori, quand on cherche à habiller le ballon avec, mais oui, ça marche bien.
Je vous vois mettre des faits ces morceaux de cuir sur cette sphère, mais ça fonctionne, on obtient un autre ballon de foot. Et d'ailleurs, à ce propos, je renvoie aussi nos auditeurs et nos auditrices à une émission qu'on avait faite avec Étienne Gis sur les maths cachées dans un ballon, dans un ballon de foot. Peut-être Élodie Christophe sur ce dispositif-là.
Oui, je pense que ça va parler à tout le monde, donc c'est vraiment un dispositif facile, ludique, pour inviter les visiteurs à vraiment essayer de s'essayer justement et découvrir la géométrie. J'avoue qu'avant d'arriver à la maison Poincaré, je n'avais pas vu la différence entre les hexagones et les pentagones dans un ballon de foot. Pour moi, il y avait que des structures identiques. Donc oui, je pense que ça permet d'ajuster un petit peu ses lunettes sur les mathématiques.
À propos de structures identiques, je vois que derrière aussi, il y a un chou de Romanesco. Le chou Romanesco, c'est un objet fractal du point de vue mathématique. Sylvie Bonzoni.
Oui, alors là, après le ballon qui était un objet manufacturé, là, on a vraiment quelque chose qui est fabriqué par la nature. Bon, évidemment, on est dans une expo permanente, donc ce n'est pas un vrai chou, c'est un chou reproduit, mais du mieux possible. Et effectivement, si les gens connaissent pas, c'est un peu comme un chou-fleur avec des pointes. Et la particularité, c'est qu'effectivement, quand on regarde de plus près, ben, on a l'impression de voir un mini-chou et des mini-mini-choux dans le mini-chou. Voilà. Et en théorie, jusqu'à l'infini, si c'était vraiment un objet mathématique fractal, la nature ne fait pas jusqu'à l'infini, mais en tout cas, ça donne une idée de ce que c'est qu'un objet fractal.
Mathilde Herblot.
Oui, vous avez sans doute déjà remarqué ça avec un brocoli, on le prend en entier, puis il est formé de bouquets. Si on isole un de ces bouquets, il ressemble un peu au brocoli tout entier, qu'il est lui-même formé de bouquets plus petits, dans lesquels il y a des petits points, etc. Ouais, donc c'est ça l'idée d'autosimilarité d'un objet fractal.
Vous voyez peut-être d'autres choses à dire sur cette salle qui vous semble importante ?
On pourrait raconter des histoires sur absolument tous ces 14 objets qui sont autour et qui ouvrent vers différents domaines, effectivement. Moi, j'aime beaucoup le rendu de cette bouée multicolore.
Qu'est-ce que c'est ? Oui, ce donut.
Alors oui, on pourrait parler d'un donut. Donc c'est une bouée, déjà comme une bouée qu'on pourrait amener à la plage, mais qui illustre un résultat mathématique sur la question du coloriage des cartes. En fait, si vous faites une carte, ne serait-ce que sur cette sphère, là, cette boule comme un globe terrestre, il y a un théorème qui vous dit que vous pourrez la colorier avec seulement 4 couleurs, de sorte que 2 pays frontaliers n'aient pas la même couleur. Et voilà, 4 seulement. Et en fait, dès qu'on a des formes plus compliquées, donc le donut ou cette bouée en est une, il y a comme un trou, la place du baigneur, eh bien, parfois on a besoin de jusqu'à 7 couleurs et cette bouée l'illustre. Si vous regardez, vous allez trouver cette couleur. Et il se trouve que chacune de ces 7 régions est frontalière des 6 autres. Donc il y a vraiment besoin des 7 couleurs.
Dans une belle salle boisée également. On voit des portraits, c'est la salle de venir, des portraits de mathématiciens, de mathématiciennes, certains qu'on a reçus d'ailleurs dans la science CQFD. Et puis en face de nous, des miroirs. C'est une salle qui porte un message également.
Oui, cet espace est vraiment destiné à donner des exemples de parcours variés, toujours à parité entre les femmes et les hommes. Bon, il y a aussi les deux personnalités historiques du lieu, qui sont non seulement Jean Perrin, mais la physicienne Yvette Cauchois, qui sont représentées en grand, et des personnalités contemporaines qu'on a choisies vraiment pour illustrer la variété des parcours à forte composante mathématique. Donc c'est plutôt des chercheurs-chercheuses, mais il y a aussi des enseignants-enseignantes et d'autres types de professions qui sont représentées.
On voit qui justement dans ces personnalités-là ? Alors, je vous laisse faire un petit tour d'horizon.
Alors, si on part de la droite, on a David Loipre qui a un parcours assez original et qui est assez connu du public parce qu'il anime sa chaîne YouTube qui s'appelle Science Étonnante.
Que l'on connaît bien.
Voilà. Ensuite, on a Nalini Joshi, qui est une mathématicienne qui vit et qui travaille en Australie. Pauline Barieux, qui est mathématicienne et qui vit et travaille en Grande-Bretagne. Barbara Fontecchi, elle est en Italie. Eugenia Cheng, elle est aux États-Unis. Gilles Gouriot, qui est un professeur de mathématiques en France. Adam Worou, qui travaille dans un groupe de télécommunications en France également. Tadashi Tokeda, que vous avez peut-être reçu aussi, je crois. Qui nous a rendu visite récemment, mais en tout cas, ce portrait est antérieur à sa visite. Et puis, on en a encore quelques autres sur les autres pans de mur.
Oui, là, l'idée, c'est vraiment, nous, avec les groupes scolaires, on aura envie de leur donner envie. Donc voilà, aux filles, aux garçons, de voir tous ces exemples peut-être inspirants aussi, et puis des idées auxquelles les maths pourraient les conduire. Donc dans ces visites guidées, je pense que ça va être un passage obligé avec toutes les classes.
Oui, donc comme l'a dit Élodie, c'est surtout prévu pour des parcours pour des scolaires, donc avec médiation. Et c'est possible de prendre des exemples et de détailler quelques portraits ou un portrait. Et ça montre non seulement des personnes qui font des maths pour les maths, mais aussi pour d'autres choses, donc l'utilité de maths dans d'autres métiers que la recherche en mathématiques.
Parfait, je vous propose de continuer. Alors, la salle du fond. Oh, on passe devant de belles machines d'ailleurs. Ceci, ça fait partie des collections.
Alors oui, donc c'est, effectivement, c'est pas les objets, les sculptures qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est des machines à calculer qui datent de fin 19e siècle, début 20e, avant bien sûr l'avènement des ordinateurs. C'est des machines totalement mécaniques qui permettent de faire des opérations, les quatre opérations, celles qu'on apprend à l'école, ajouter, soustraire, multiplier, diviser. On peut les faire sur des très très grands nombres grâce à ces machines.
C'est le laboratoire des calculs. On continue notre avancée technologique. On va vraiment faire de la nouvelle technologie, puisque là, on arrive dans une expérience. Alors, on va pas pouvoir la tester ensemble, parce que ça dure 30 minutes, mais voilà, donc dans la salle, visualiser. Et vous allez peut-être nous permettre de visualiser qu'est-ce que c'est que cette expérience. Une expérience de réalité mixte, hein, virtuelle et réelle, avec des caisses de VR.
Alors, de réalité mixte,
oui, c'est ça,
c'est-à-dire
hein.
Que c'est comme des lunettes. On voit au travers de ces lunettes et en plus, on a des images qui viennent se superposer à la réalité. Et c'est aussi des mini-ordinateurs, donc ça calcule et on peut interagir sur ce qu'on voit. Donc, c'est une expérience qui se vit en groupe, d'une douzaine de personnes avec un animateur ou une animatrice. Et il y a toute une histoire qui se développe. Donc, c'est assez magique. On peut rentrer dans l'expérience par une porte qui est physique, qui est une œuvre filaire qu'on peut voir ici. Et sinon, la pièce est totalement vide, puisqu'il s'agit vraiment de bouger ensemble autour de ce scénario qu'on peut observer.
Alors, qu'est-ce qu'on voit justement quand on porte ce casque ? Vous imaginez un peu ce qui joue ? Parce que là, on est dans une pièce relativement vide.
Alors, on rentre dans cet univers, on passe un petit peu dans le monde d'Alice, on appelle aussi la salle Alice, en référence à Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Et on commence par une sorte de jardin avec des clins d'œil mathématiques. Il n'y a pas de volonté pédagogique sur les choses qu'on peut voir, mais on observe des objets, enfin les artistes qui ont imaginé cet univers graphique ont pris beaucoup de plaisir à mettre des petits clins d'œil mathématiques. Et ensuite, il y a un scénario qui se développe avec des grains de pollen, puisque l'idée, c'est de parler de quelque chose qui s'appelle le mouvement brownien, mis en évidence par Jean Perrin, qui est un phénomène physique. C'est en gros l'agitation des particules en raison du mouvement des molécules. Et c'est aussi devenu un concept mathématique très important dans la théorie des probabilités. Donc voilà. Et ça, c'est. Alors je précise qu'effectivement, ce projet-là, c'est vraiment une idée de Cédric Villani d'avoir imaginé une expérience totalement innovante comme ça en réalité mixte. Et simplement, quand je suis arrivée, il fallait développer l'histoire qui était à l'état de prototype.
Justement, avec ces lunettes, on peut observer ce comportement de particules microscopiques dans un fluide, c'est ça ?
Voilà, et ça illustre à nouveau, un peu comme le show Romanescu, la notion de fractal. Parce que les trajectoires sont erratiques et autosimilaires. C'est-à-dire, si on zoome dessus, on a l'impression de voir encore le même genre de trajectoire.
Oui, c'est la première expérience qu'on pourra vivre en collectif. Et c'est vraiment important parce qu'on voit effectivement les autres, on peut interagir avec les mêmes objets et donc partager aussi cette expérience ensemble avec une médiation. Parce que ce qui est important dans ce musée, c'est bien sûr on peut le faire en visite libre. Il y a beaucoup de fiches explicatives, il y a beaucoup de textes qui permettent de comprendre ce qu'on regarde. Mais la médiation apporte un vrai plus, donc je la conseille vraiment à tout le monde en plus de cette expérience.
C'est aussi montrer que ce musée est très en contact également avec les technologies actuelles, parce que là, cette expérience comme ça de réalité mixte, enfin, il y a aussi la volonté de dépoussiérer peut-être les anciennes méthodes muséographiques, peut-être.
Oui, c'est vrai que c'était un projet très ambitieux, Holomat, parce que effectivement, le développement est vraiment onéreux, il faut bien le dire, mais c'était totalement innovant et on s'est dit que ça serait quand même notre attraction, notre expérience phare dans la maison Poincaré.
Et on continue parce qu'il y a une exposition temporaire qu'on a évoquée ensemble, allons la voir, c'est Entrer dans le monde de l'IA et on y rentre. C'est grand, il y a combien de mètres carrés en tout d'espace d'exposition ?
On a 900 mètres carrés d'exposition,
ouais, c'est ça.
Donc 600 mètres carrés au rez-de-chaussée, l'exposition permanente, 200 mètres carrés au sous-sol et une grande salle pour faire des ateliers.
Donc là, c'est les expositions, puisque la maison Poincaré, c'est une exposition permanente et deux expositions temporaires par année, c'est ça ?
C'est ça. On va avoir une exposition thématique depuis la rentrée jusqu'aux vacances de Pâques, à peu près. Et puis une exposition autour des arts et des sciences, donc pour approcher les mathématiques aussi par une façon plus sensible, avec des artistes qui vraiment travaillent avec les mathématiques dans leurs œuvres, soit par des sculptures, des arts diverses. Donc là, ce sera plutôt sur les mois de mai, juin et juillet. On a d'ailleurs une première exposition temporaire qui est prévue avec la galerie Wagner, donc avec une dizaine d'artistes qui présenteront leurs œuvres à cette occasion-là.
Pour tisser les liens entre justement les mathématiques et les arts, quels qu'ils soient.
Oui, et puis surtout que chacun puisse arriver à approcher les mathématiques, même parfois aussi une approche plus sensible permet de les approcher différemment. On n'a pas forcément cette approche-là à l'école, où on les approche plus par les chiffres, bien souvent, le calcul. Mais les mathématiques, c'est très diverses, et donc c'est une autre façon aussi de les approcher.
Ça, ce sera la deuxième expo temporaire qui arrivera, donc vous dites, à partir de mai 2024. Là, on a cette exposition « Entrer dans le monde de l'IA ». Ici, là, l'idée, c'est de mettre justement en lumière tous les aspects sociologiques sur les problèmes que peuvent poser l'IA, c'est ça ?
Alors, on arrive effectivement à mettre en évidence certains problèmes, mais on repart quand même au départ sur la définition. Qu'est-ce que c'est l'IA ? Donc, l'idée, c'est aussi de leur expliquer ces deux mots, intelligence artificielle, pourquoi, pour qu'est-ce ? Mais là, vous avez beaucoup de témoignages d'experts aussi qui expliquent une grande frise du temps, on va la voir, qui montre aussi les grands succès, les grands échecs. Donc, on revient un peu sur l'histoire de cette intelligence artificielle. Elle est en cours d'installation, on est sur les derniers jours avant ouverture, donc faites attention au fil. Et puis on a des manips aussi interactives au-delà de ces panneaux d'information pour essayer aussi de montrer l'intelligence artificielle autour du jeu, autour, par exemple, là on en a une qui est qu'ils ont fini d'installer pour nous, où l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer aux visiteurs de reconnaître s'ils font la différence entre des visages qui sont créés par une intelligence artificielle de visages qui sont des vraies photos, de vrais gens.
On voit en effet des blocs avec tout un tas de visages, très réalistes d'ailleurs, des photos...
Oui, c'est ça, et on a la réponse...
Ces blocs, on peut donc les manipuler.
Exactement. Et vous avez la réponse.
Ah oui, d'accord, je viens
en dessous. Donc, effectivement, le public peut chercher et on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés à savoir si c'est une photo réelle ou une photo créée par intelligence artificielle.
Cette personne, je pense qu'elle est réelle. Elle est générée par une IA. Et puis, je me suis fait avoir. Et ça, c'est pour mettre en effet ça en lumière, comment ça fonctionne, les réseaux de neurones artificiels.
Oui, on parle de l'apprentissage. Qui sous-tend donc l'intelligence artificielle. On va l'approcher par différentes approches donc de jeu ou d'expérience là avec ces photographies. Et puis on va essayer de montrer aussi leurs applications. Donc ça c'est la suite un petit peu de cette exposition.
Alors, sur les applications justement, qu'est-ce qu'on peut voir ?
Alors, on a des applications autour de l'IA. On aura aussi une conférence où on va justement parler des applications en santé. C'est un format qu'on propose avec le CNRS qui s'appelle les échappées inattendues. Donc là, on aura trois intervenantes qui vont justement nous parler de comment l'IA peut faire parler les images médicales, comment on peut développer des nouvelles thérapeutiques ou des nouvelles cibles thérapeutiques, des nouvelles molécules fonctionnelles. Enfin, trois petits formats courts, en fait. Donc ça, c'est une conférence qu'on proposera dans l'Amphipérin et qui viendra un petit peu autour de cette exposition. Et on va parler aussi, dans cette exposition, un exemple, par exemple, c'est une experte qui explique un petit peu les biais que peuvent avoir certains algorithmes, notamment dans le secteur des ressources humaines, parce qu'évidemment, ils apprennent, mais à partir de bases de données. Donc ces bases de données, c'est les humains qui les fournissent. Et donc nous, on les fournit avec nos propres biais. Donc évidemment, on peut avoir des biais de genre, par exemple. Qui peuvent survenir justement de ces bases de données à la base qui sont fournies aux ordinateurs pour apprendre.
Après, si je peux rajouter quelque chose, vous avez mentionné au début notre réseau, la Maison des maths et de l'informatique à Lyon, Fermascience près de Toulouse, et toutes ces expositions temporaires thématiques, elles sont vraiment développées en réseau, et en l'occurrence, les commissaires de cette exposition, ils sont à Lyon, elle a été faite plutôt à Toulouse, et je ne dis pas de bêtises, et l'un des commissaires va être là pour une séance spéciale au Festival Paris Science, qui va présenter un film qui nous permet de parler de l'intelligence artificielle aussi.
Sur cette exposition-là, c'est aussi montrer que, il s'agit de faire comprendre en fait que l'IA, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est ce qu'on en fait. En fait, c'est aussi le discours, le propos que cherche à tenir cette exposition.
Effectivement, c'est essayer de mieux faire comprendre ce que c'est, parce qu'on en parle, on en entend beaucoup parler, et. Par exemple, c'est pas des ordinateurs qui sont devenus intelligents, même s'il y a intelligence dans le nom. Ils ne font que calculer, optimiser des choses. Il y a plusieurs définitions d'intelligence artificielle, il n'y en a pas qu'une, et l'exposition présente aussi tout ce qu'on peut entendre par intelligence artificielle, mais aussi ce qu'on n'entend pas par intelligence artificielle et les exagérations qu'on fait parfois couramment.
Sur les verbes,
le choix des verbes des espaces, effectivement. Donc il y en a 7 si on inclut respirer pour le jardin. Ça a été toute une histoire. Il y en a certains sur lesquels on a beaucoup débattu. De mémoire, connecté, il a mis longtemps à héberger parce qu'on en avait plein de candidats en fait pour ces verbes.
Ah, comment ça s'est passé justement ce débat de verbes?
Bon, c'était au sein des groupes de travail et puis. Il fallait vraiment trouver quelque chose qui soit parlant, qui soit un peu quand même bien lié à ce qu'on avait envie de mettre dans l'espace en question. Bon, ouais, ça a été toutes des discussions avec les groupes et puis la muséographe Céline Nadal et moi-même.
Alors là, on arrive à la toute fin de cette visite, mais avant ça, j'ai entendu parler d'une sculpture qui est un peu la mascotte apparemment du musée. Je veux bien qu'on aille la voir et puis ça nous permettra de finir, puisque comme on l'entend, hein, ce musée fait des liens entre science, société et art. Je voudrais que vous me présentiez cette sculpture. Et donc pour finir, on termine avec ce dernier verbe, respirer. Voilà. Par ici, c'est l'espace extérieur. Par où on se met ici, vous voulez qu'on descende?
On peut aller plus près.
Ouais, très bien. On peut grimper dedans.
Oui.
On peut grimper dans une sculpture. Là.
C'est autorisé.
On voit une sculpture d'Ulysse Lacoste. Je dis pas de bêtises quand on m'a glissé que c'était la mascotte de ce musée, c'est vrai?
Oui, tout à fait. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu en rentrant, mais dans l'entrée, dans le hall, il y a un théâtre optique qui a été réalisé par Pierrick Sourin qui met en scène une version beaucoup plus petite de cette sculpture qui a été appelée le Rulpidon par l'artiste Ulysse Lacoste.
Le Rulpidon, on peut le décrire, à quoi il ressemble?
Alors, je ne sais pas si les auditeurs, auditrices vont réussir à se l'imaginer, mais c'est géométriquement, c'est quelque chose qui est fabriqué avec des morceaux de cylindres. Et là, on a une sculpture qui est faite de façon assez monumentale. Les cylindres, ils font 2 mètres de diamètre. Donc, c'est des tôles d'acier qui sont courbées pour prendre des formes cylindriques, mais en fait, c'est juste des parties du cylindre. Et donc, il y a des faces extérieures et il y a des trous. Comme des trous. En fait, les trous sont aussi cylindriques et donc ça fait des formes un petit peu en croix qu'on peut retrouver dans certains domaines de l'architecture en pierre. Et là, c'est fait en acier.
Cet artiste a donc été aussi inspiré par les mathématiques pour ce travail.
C'est là exactement la raison pour laquelle on a le petit Rulpidon dans le hall, c'est que il connaissait l'Institut Henri Poincaré et il venait à la bibliothèque observer nos objets et il était inspiré par ces objets.
On peut préciser aussi la mascotte de la maison Poincaré parce que la façon dont on le regarde, on peut l'observer, il a la forme soit d'un cercle, soit d'un carré. D'où en fait le choix de cette sculpture un peu comme mascotte de la maison Poincaré. Et le fait de pouvoir grimper dedans, effectivement, permet de pouvoir l'observer un peu sous toutes ses coutures.
Merci beaucoup. La maison Poincaré, c'est donc une exposition permanente, 2 expos temporaires par an. C'est loin d'être tout, comme vous l'avez dit, des ateliers pour tous les publics, les samedis, des conférences à venir, des cycles de nocturnes prévus. On vous met toute la programmation sur notre site, sur franceculture.fr. Merci à vous trois pour cette visite. Merci beaucoup. Cette émission ne serait pas grand-chose sans le talent d'Antoine Beauchamp, de Céline Lauzen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim, Noémie Eliazor, Garance Prima Agnolo. À la réalisation, Olivier Bétard, à la prise de son, Georges Thau. Vous pouvez nous podcaster à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.